Bonjour, eh bien Raymond Richard au micro avec Chantal et on s'était attardé dans les revues du CCFD Terre Solidaire sur la réflexion autour du Bangladesh. Alors Bangladesh, on en a parlé parce que c'était le pays qui accueillait les Rohingyas, mais on en parle aussi parce que c'est un pays qui connaît les méfaits du changement du climat. Et entre autres, on voit par exemple que dans ce pays, les îles disparaissent et apparaissent selon les changements de courant du fleuve. Donc, impossible dans ces conditions d'avoir un réseau électrique. Et puis, changement avec les panneaux solaires.
Oui, les panneaux solaires, ça permet d'être autonome et de ne pas être lié à un réseau électrique venant de loin.
Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, on voit, les panneaux solaires permettent de fournir de l'électricité.
Donc, on a la production d'énergie et la consommation qui est sur le même lieu. On fixe son panneau solaire sur la maison et la maison qui a le panneau solaire sur le toit, elle est productrice d'énergie et elle est consommatrice de sa propre énergie qu'elle produit. Donc là, il y a le circuit le plus court entre producteur et consommateur.
Oui, alors c'est vrai que là aussi, c'est effectivement une organisation sociale totalement différente, puisque finalement, il y a une complète autonomie des personnes.
Voilà, c'est important parce que certains villages n'étaient pas rattachés au réseau électrique national. Et donc, quand ils avaient des batteries, ils marchaient surtout au générateur à la batterie. Donc, ils allaient dans le village voisin charger leurs batteries de portables, de batteries pour tout. Donc là, le fait de pouvoir installer des panneaux solaires, d'abord, ils sont autonomes. Ensuite, ils ont l'électricité en permanence, ce qui permet aux enfants d'étudier après les travaux agricoles, donc tard la nuit.
Ça permet aux femmes, ça, c'est très important, hein.
Aux femmes qui travaillent et qui vont vendre leurs denrées sur le marché de pouvoir continuer à suivre des formations. Et donc, disons qu'on rallonge le temps de la journée avec de l'électricité.
Donc,
ça permet d'avoir à deux, trois tâches différentes. Et là aussi, l'État a encouragé parce que chaque bon élève reçoit son panneau solaire. Donc, du coup, effectivement, il y a multiplication des panneaux et promotion de cette nouvelle production énergétique.
Oui, alors voilà, donc, scolarisation des enfants. Les commerces peuvent rester ouverts plus tard.
Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a un essor économique qui se crée, étant donné que les commerces travaillent davantage, c'est un essor économique.
Et puis aussi, ça favorise les relations sociales. Alors, le reportage de Fin et Développement Magazine nous dit « Après leur travail, les hommes viennent se détendre entre amis, comme ici dans un cybercafé. » Et ça, c'est quelque chose aussi d'étonnant, c'est qu'en fait, nous, on a eu l'impression que les progrès se faisaient d'abord l'électricité, puis bon. Et là, en fait, on fait un saut dans le temps et on passe à ces panneaux solaires qui fournissent l'électricité. Ça permet la télévision, ça permet le téléphone portable, ça permet l'informatique. Donc là, on passe immédiatement pas du Moyen-Âge, mais enfin d'un
presque,
temps
oui.
Difficile à un temps très moderne. Alors, les panneaux solaires, eh bien, puisque un enfant qui travaille bien à l'école, il reçoit un panneau solaire, ça veut dire que vraiment, il y a là un levier d'émancipation. Alors, les femmes peuvent cuisiner le soir, elles gagnent du temps dans la journée pour travailler au champ et développer d'autres activités.
Aussi, elles gagnent du temps pour aller former, comme il y a des ONG qui sont soutenues par le CCFD ou la CIDI qui permettent une meilleure éducation et aussi une meilleure connaissance, prise de conscience sur leurs droits et aussi sur des nouvelles méthodes pour augmenter la production de leur activité rurale.
Et puis, transformation sociale, les filles qui vont à l'école, les familles acceptent de repousser l'âge du mariage tant que les filles réussissent à l'école.
Oui, et puis qu'elles ne sont pas, disons, un poids économique, étant donné qu'on a pu développer. À partir du moment qu'il y a de l'essor économique, le poids économique de chaque individu pèse moins dans l'assiette familiale. Donc, on peut se permettre d'aller
à l'école. Voilà, des aspects inattendus, des transformations.
Et de l'arrivée du panneau solaire en plein Bangladesh.
Voilà.
Le CCFD Terre Solidaire a fait le pari d'agir durablement contre la faim. Cela passe bien sûr par des soutiens à des projets agricoles. Mais aussi, c'est accompagner des hommes et des femmes, paysans, paysannes, à s'organiser, à se structurer au sein d'organisations locales fortes et performantes. Cela passe aussi par un soutien à la structuration des filières commerciales, pour que ces paysans puissent vendre leurs marchandises, puissent vivre de leur production.
Alors on évoquait aussi, c'est un des autres projets de la CIDI, et ce sont les problèmes des pays en voie de développement ou en développement, la question des terres. Et là on a tout un reportage sur les terres en Afrique du Sud.
Alors oui, les communautés en Afrique du Sud, c'est essentiellement les communautés noires, qui ont recours au financement de la CIDI pour des différents projets de microfinancement pour le développement des activités rurales, ils se sont rendus compte qu'ils se heurtaient à soi-disant une pénurie des terres. Et en fait, il y a un partenaire du CCFD, Terres Solidaires, qui, participant au soutien des petits fermiers, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pénurie de terres, mais que c'était plutôt une réforme agraire qui avait été promise par Mandela, qui avait été repromise par le président suivant, mais qui n'aboutit toujours pas. Ils ont d'énormes difficultés et ils ont toujours cet énorme obstacle. Comment récupérer les terres qui ont été saisies par les Blancs quand ils ont instauré l'apartheid en Afrique du Sud?
L'histoire, là, revient...
Oui, à grand plan. Donc là, ils sont cherchés, parce que c'est pas la peine de foncer dans le mur. Généralement, il vaut mieux essayer de voir comment on peut contourner et voir comment on peut faire autrement. Alors, ils ont imaginé des tas d'autres alternatives. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres terres disponibles, à part les terres dont les Blancs sont propriétaires, bien que ce soit la majorité, plus de 70% du territoire sud-africain. Mais il y a quand même des terres qui permettraient de répondre dans l'urgence à ces communautés qui cherchent absolument à survivre décemment. C'est toutes ces terres qui appartiennent aux communautés, aux anciennes chefferies, aux anciens bamboustans, parce qu'il faut se rappeler que quand l'apartheid s'est mis en place, qu'il y a eu la confiscation des terres des Noirs par les Blancs, il y a eu création des bamboustans, qui étaient en fait purement et simplement des réserves dans lesquelles on foutait les Noirs, pour que les Blancs puissent faire prospérer leur culture intensive. Donc tout ça s'est remis dans un panier à négociation, et donc dans une commission de révision constitutionnelle. Et comme il y a les élections l'an prochain, en 2019, ils pensent bien que ça sera un levier supplémentaire pour activer cette commission de révision constitutionnelle et redonner un autre statut à toutes ces terres qui finalement appartiennent à des communautés. Donc ça permet...
Aux chefferies, à l'église.
Aux municipalités. Comme ça permet d'avancer dans la redistribution des terres auprès des communautés noires. Et puis ça permet aussi de se donner du temps sur comment on va résoudre la récupération des terres qui ont été confisquées par les Blancs.
Voilà, donc la question des terres, c'est une question agricole, mais une question urbaine, une question pour tout le monde. Voilà. D'autant plus qu'en Afrique du Sud, la richesse, elle se trouve dans les terres, mais elle se trouve aussi dans le sous-sol.
Et surtout dans le sous-sol. C'est pour ça que pendant longtemps, la terre n'a pas été véritablement leur priorité. Parce que ça a bien été quand même le sous-sol. Et même, il y a certaines terres où ça ne sert à rien de les récupérer s'il n'y a pas d'eau. En Afrique du Sud, il y a quand même différents climats et différents reliefs. Et ce n'est pas seulement une terre disponible qu'il faut voir, mais est-elle cultivable? Y a-t-il de l'eau à proximité? Et sommes-nous...
En capacité de la transformer et de cultiver.
De la transformer en terre agricole. Ça, c'est un autre débat.
Agir contre la faim nécessite du temps, car il faut redonner confiance à ces hommes et à ces femmes. Mais c'est aussi agir contre un contexte qui est parfois très contraignant. Contexte fait de conflits, contexte fait de concurrence internationale déloyale vis-à-vis de ces agriculteurs, contexte fait d'aléas climatiques. Mais c'est aussi aider à la restructuration d'un tissu économique local nécessaire pour que ces hommes et ces femmes puissent vendre leur production. Vaincre la faim est l'affaire de tous. Merci de porter avec nous l'espérance d'un monde meilleur.
Alors, ce problème-là d'organisation sociale se retrouve aussi au Burundi. Et c'est le programme TAPSA.
Oui, un programme, alors là, lui, il s'appuie aux initiatives écologiques et sociales, qui a été donc cofinancé avec l'Agence française de développement et piloté par la CIDI à travers le CCFD Terres Solidaires.
Alors ça, c'est intéressant parce que dans ce pays, les personnes avaient, à force d'avoir le partage des parcelles, eh bien, ils avaient la moitié d'un hectare à cultiver, donc notoirement insuffisant. Et là, ils ont imaginé qu'au lieu de chacun cultiver sa terre, se mettre ensemble pour cultiver les terres de tout le monde. Donc, ils redécouvrent finalement les vertus du travail en commun.
Et aussi l'avantage de mutualiser ses moyens pour avoir une plus grande récolte.
Voilà, donc on s'organise. Alors déjà, pour obtenir que les femmes puissent participer à l'héritage lorsqu'il y a une répartition des terres. Mais en plus, pour faire des travaux ensemble. Par exemple, lorsqu'il y a des collines, eh bien, on va travailler ensemble, faire des haies ou faire des rigoles, en empêchant le ruissellement. Parce que si quelqu'un fait les travaux pour empêcher le ruissellement, mais que le voisin ne le fait pas, la terre va ficher le camp à côté. Donc, on se met ensemble et on prévoit ensemble ces travaux. On prévoit ensemble des travaux aussi de replantation pour tenir la terre. Et on voit donc des producteurs qui travaillent ensemble et qui trouvent des solutions pour leur agriculture. Donc, un appui à l'imagination des paysans pour réussir à mieux s'alimenter.
Tout en ayant une attention particulière à des mesures écologiques nouvelles par rapport à l'environnement et donc à une nouvelle réorganisation sociale.
Où on s'aide mutuellement. Alors, on voit sur l'image, eh bien, les petits plants des arbustes que l'on va planter, mais par ailleurs, eh bien, on fait aussi du compost dans le village ensemble, et puis ensuite, le compost est étendu en même temps et on fait la plantation ensemble. Donc, les initiatives écologiques et sociales font que on peut réussir, malgré l'absence de terre ou le peu de terre que l'on a, réussir à mieux s'alimenter. Et c'est ça l'objectif. Je cite « La recherche de solutions concrètes au changement climatique promeut des pratiques réduisant la dépendance des agriculteurs aux intrants chimiques de synthèse et contribue à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques et écologiques des populations des zones rurales. » Donc, là, on voit que, au-delà du problème des terres, il y a aussi toute une assistance technique, un accompagnement à la gestion des mutuelles de solidarité, à la formation des agriculteurs, à l'imagination pour faire le compost, planter en suivant les courbes de niveau, etc., etc. Donc, la pénurie des terres aboutit à une imagination et
une adaptation aussi, voilà, aux nouvelles conditions, comment cultiver avec les nouvelles contraintes qui s'imposent à eux.
Et qui permet donc de mieux se nourrir. Et voilà, c'est ça l'intérêt du développement et du travail du CCF des Terres Solidaires. Dans ces pays, nous avons évoqué donc le Bangladesh, l'Afrique du Sud et le Burundi. Et pour en savoir plus, n'oubliez pas, vous allez voir la revue Faim et Développement Magazine. Voilà, et bien notre émission s'achève. Chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.